La forêt, en effet, déserte en semaine, était d'une douceur infinie, avec ses futaies profondes, à droite et à gauche, criblées de soleil. L'astre, encore oblique, n'éclairait qu'un côté de la route, dorant les hautes draperies vertes des arbres, tandis que de l'autre côté, dans l'ombre, les verdures étaient presque noires. Et quel délice que de s'en aller ainsi, d'un vol d'hirondelles qui rase le sol, par cette royale avenue, dans la fraîcheur de l'air, dans le souffle des herbes et des feuilles, dont l'odeur puissante fouette le visage. Ils touchaient à peine au sol, des ailes leur étaient poussées qui les emmenaient d'un même essor, par les rayons et par les ombres, par la vie éparse du grand bois frissonnant, avec ses mousses, ses sources, ses bêtes et ses parfums. Au carrefour de la Croix de Noailles, Marie ne voulut pas s'arrêter. Trop de monde s'y coudoyait le dimanche, et elle connaissait ailleurs des coins vierges d'un repos charmant. Puis, dans la pente, vers Poissy, elle l'excita Pierre. Tous deux laissèrent leur machine s'emballer. Alors, ce fut cette griserie allègre de la vitesse, l'enivrante sensation de l'équilibre dans le coup de foudre où l'on roule à perdre haleine, tandis que la route grise fuit sous les pieds et que les arbres des deux côtés tournent comme les branches d'un éventail qu'on déploie. La brise souffle en tempête, on est parti pour l'horizon, pour l'infini, là-bas, qui toujours se recule. C'est l'espoir sans fin, la délivrance des liens trop lourds à travers l'espace. Et rien n'est d'une exaltation meilleure. Les cœurs bondissent en plein ciel. « Vous savez, cria-t-elle, nous n'allons pas à Poissy, nous tournons à gauche. » Ils prirent le chemin d'Achères aux Loges qui se rétrécissait et montait d'une intimité ombreuse. Ralentissant leur allure, ils durent pédaler sérieusement dans la côte, parmi les graviers épars. La route était moins bonne, sablonneuse, ravinée par les dernières grandes pluies. Mais l'effort n'était-il pas un plaisir? Vous vous y ferez, c'est amusant de vaincre l'obstacle. Moi, je déteste les routes trop longtemps plates et belles. Une petite montée qui se présente, lorsqu'elle ne vous casse pas trop les jambes. C'est l'imprévu, c'est l'autre chose qui vous fouette et qui vous réveille. Et puis, c'est si bon d'être fort, d'aller malgré la pluie, le vent et les côtes. Elle le ravissait par sa belle humeur et sa vaillance. « Alors, demanda-t-il en riant, nous voilà partis pour notre tour de France. » Non, non, nous sommes arrivés. Hein? Ça ne vous déplaira pas de vous reposer un peu. Mais dites-moi, si ça ne valait pas la peine de venir jusqu'ici, pour s'asseoir un instant dans un joli coin de tranquillité et de fraîcheur. Légèrement, elle sauta de machine, puis s'engagea dans un sentier, où elle fit une cinquantaine de pas, en lui criant de la suivre. Les deux bicyclettes appuyées contre des troncs d'arbres, ils se trouvèrent au milieu d'une étroite clairière. C'était en effet le nid de feuilles le plus exquis qu'on pût rêver. La forêt est là d'une beauté, d'une grandeur solitaire et souveraine. Et le printemps lui donnait l'éternelle jeunesse. Les feuillages étaient d'une légèreté candide, toute une fine dentelle verte que le soleil poudrait d'or. Un souffle de vie montait des herbes, venait des futaies lointaines, embaumées des odeurs puissantes de la terre. « On n'a pas encore trop chaud, heureusement, » dit-elle en s'asseyant au pied d'un jeune chêne auquel elle s'adossa. « La vérité est qu'en juillet, les dames sont un peu rouges et que la poudre de riz s'en va. On ne peut pas toujours être belle. » « Moi, je n'ai pas froid, » déclara Pierre, qui s'était assis à ses pieds en s'épongeant le front. Elle s'égaya, lui dit qu'elle ne lui avait jamais vu tant de couleurs. Enfin, il avait du sang sous la peau, ça se voyait. et ils se mirent à causer comme deux enfants, comme deux camarades, s'amusant de gaminerie, trouvant très gaies les choses les plus puériles du monde. Elle s'inquiétait de sa santé, voulait qu'il ne restât pas à l'ombre puisqu'il avait si chaud, de sorte que, pour la tranquilliser, il dut se déplacer, se mettre le dos au soleil. Puis, ce fut lui qui la sauva d'une araignée, une grosse araignée noire, qui s'était pris les pattes parmi ses cheveux follets sur sa nuque. Toute la femme venait de reparaître en elle, dans un cri aigu de terreur. Était-ce bête d'avoir ainsi peur des araignées? Elle avait beau vouloir se maîtriser, elle en restait pâle et tremblante. Un silence s'était fait. Ils se regardaient l'un l'autre avec un sourire. Et ils s'aimaient bien au milieu de ce bois si tendre, d'une amitié émue que tous les deux croyaient fraternelle. Elle, heureuse de s'être intéressée à lui, lui reconnaissant de la guérison, de la santé qu'elle lui apportait. Mais leurs yeux ne se baissaient pas. Leurs mains n'eurent pas même un frôlement en foulant les herbes, car ils étaient inconscients et purs, comme les grands chênes qui les entouraient. Quand elle l'eut empêché de tuer l'araignée, la destruction lui faisant horreur, elle se remit à causer raisonnablement de toutes choses, en fille qui savait et que la vie n'embarrassait point. Tellement elle était sûre de ne jamais faire que ce qu'elle avait résolu de faire. « Dites donc !» finit-elle par crier. « On nous attend pour déjeuner chez nous !» Ils se levèrent, regagnèrent la route en poussant les bicyclettes. Et ils repartirent d'un bon train, passèrent devant les loges, arrivèrent à Saint-Germain par la superbe avenue qui débouche devant le château. Cela les ravissait de rouler de nouveau côte à côte, comme deux oiseaux accouplés planant d'un vol égal. Les grelots tintaient, les chênes avaient leur petit bruissement léger. Et dans le vent frais de la course, ils reprenaient leur conversation très à l'aise, très intime, comme isolés du monde, emportés très loin et très haut. Puis, dans le train qui les ramenait de Saint-Germain à Paris, Pierre s'aperçut que les joues de Marie s'empourpraient d'une brusque rougeur. Deux dames occupaient avec eux le compartiment. « Tiens, c'est vous maintenant qui avez chaud !» Elle protesta et, comme si une pudeur la bouleversait, sa face entière s'enflamma de plus en plus. « Je n'ai pas chaud, touchez mes mains. Est-ce ridicule de rougir ainsi sans cause aucune ?» Il comprit. C'était une de ces floraisons involontaires de son cœur de vierge, montant à ses joues et dont elle était si contrariée. Sans cause, elle le disait. Il battait à son insu même ce cœur qui, là-bas, dans la solitude de la forêt, dormait innocent. À Montmartre, après le départ des enfants, comme il les nommait, Guillaume s'était mis à fabriquer de cette poudre mystérieuse dont il cachait les cartouches, en haut, dans la chambre de Mère-Grand. La fabrication en était très dangereuse. Le moindre oubli pendant les manipulations, un robinet fermé trop tard, pouvait déterminer une explosion formidable qui aurait emporté la maison et ses habitants. Aussi préférait-il attendre qu'il fût seul, sans danger pour autrui, sans crainte d'être distrait lui-même. Pourtant, ce matin-là, ses trois fils travaillaient dans le vaste atelier, et Mère-Grand, comme de coutume, cousait tranquillement près du fourneau. Mais elle, très brave, ne comptait pas, car elle ne quittait guère sa place, vivant à l'aise dans le péril, et elle en était arrivée à aider Guillaume à connaître aussi bien que lui les différentes phases de la délicate opération, avec toutes les terrifiantes menaces. Ce matin-là, en le voyant absorbé, elle levait parfois les yeux du linge qu'elle raccommodait, sans lunettes, malgré ses 70 ans. D'un coup d'œil, elle s'assurait qu'il n'oubliait rien, puis se remettait à sa besogne. Dans son éternelle robe noire, avec toutes ses dents encore et ses cheveux qui blanchissaient à peine, Elle gardait son fin visage d'autrefois, mais séché et jauni, devenu d'une sévérité douce. D'ordinaire, elle parlait peu, ne discutant jamais, agissant et dirigeant, n'ouvrant les lèvres que pour donner des conseils de raison, de force, de vaillance. On ne savait tout ce qu'elle pensait et tout ce qu'elle voulait que par ses réponses, des paroles brèves où éclatait son âme de justice et d'héroïsme. Depuis quelque temps surtout, elle semblait se faire plus silencieuse, s'activant dans la maison dont elle était l'absolue maîtresse, suivant de ses beaux yeux pensifs son petit peuple, les trois fils, Guillaume, Marie, Pierre, qui tous lui obéissaient comme à leur reine acceptée, indiscutée. Avait-elle donc prévu des changements, vu des faits que personne autour d'elle ne prévoyait ni ne voyait? Elle était devenue plus grave encore, comme dans l'attente d'une heure prochaine où l'on aurait besoin de sa sagesse et de son autorité. « Faites attention, Guillaume, vous êtes distrait ce matin, » finit-elle par dire. « Est-ce que vous avez quelque ennui, quelque peine ?» Il la regarda d'un air souriant. « Aucune peine, je vous assure. Je songeais à notre bonne Marie, qui était si heureuse d'aller en forêt par ce beau soleil. » Antoine avait levé la tête, tandis que ses deux frères restaient plongés dans leur besogne. « Est-ce malheureux que j'aie eu ce bois à terminer? Je l'aurais accompagné si volontiers. » « Bah !» dit le père de sa voix paisible. « Pierre est avec elle. Pierre est très prudent. » Pendant un instant encore, Mère Grand l'examina, puis elle reprit sa couture. Sa royauté sur la maison, qui mettait à ses pieds les jeunes et les vieux, venait de son long dévouement, de son intelligence et de sa bonté à régner. Née protestante, libérée plus tard des croyances religieuses, elle n'appliquait en toute chose, par-dessus les conventions sociales, que cette idée de justice humaine qu'elle s'était faite après avoir tant souffert de la longue injustice dont son mari était mort. Elle y apportait une extraordinaire bravoure, ignorant les préjugés, allant jusqu'au bout de son devoir, telle qu'elle le comprenait. Et comme elle s'était dévouée à son mari, puis à sa fille Marguerite, elle se dévouait au mari de sa fille et à ses petits-fils, à Guillaume et à ses enfants. Maintenant, Pierre lui-même, qu'elle avait étudié d'abord avec inquiétude, était entré dans sa famille, faisait partie du petit coin de bonheur qu'elle gouvernait. Sans doute, elle l'en avait reconnu digne. Elle n'aimait pas à donner les raisons profondes qui la décidaient. Après des journées de silence, elle s'était contentée un soir de dire à Guillaume qu'il avait bien fait d'amener son frère. Vers midi, Guillaume, toujours à sa besogne, s'écria « Dites donc, les enfants ne sont pas rentrés. On va les attendre un peu pour se mettre à table. Moi, je voudrais bien finir. » Un quart d'heure encore se passa. Les trois grands garçons quittèrent leur travail, allèrent dans le jardin se laver les mains. « Marie s'attarde beaucoup, » fit remarquer Mère Grand, « pourvu qu'il ne lui soit rien arrivé. »« Oh, elle marche à merveille, elle est sûre d'elle, » dit Guillaume. « Je suis plus inquiet pour Pierre. » De nouveau, elle fixait les yeux sur lui. « Elle l'aura guidé, tous deux vont déjà bien ensemble. »« Sans doute, n'importe, j'aimerais mieux les savoir rentrer. » Puis, brusquement, il crut entendre les grelots des bicyclettes. Il cria que c'était eux, et, dans son contentement, il oublia tout, il lâcha son fourneau pour courir dans le jardin à leur rencontre. Mère Grand, restée seule, continua tranquillement de coudre, sans songer, elle non plus, que, près de sa chaise, dans l'appareil, la fabrication de la poudre s'achevait. Et, lorsque 2 minutes plus tard, Guillaume rentra, en disant qu'il s'était trompé, il devint tout d'un coup livide, les yeux fixés sur le fourneau. Le moment exact où la fermeture d'un robinet assurait sans danger la fin de la manipulation, venait de passer pendant sa courte absence. Et maintenant, d'une seconde à l'autre, l'effroyable explosion allait se produire si une main hardie n'osait s'approcher et tourner le robinet terrible. Il devait être déjà trop tard. Le brave qui ferait cela serait broyé. Souvent, Guillaume avait ainsi risqué la mort, avec une parfaite insouciance. Mais cette fois, il restait cloué au sol, sans pouvoir avancer, toute sa chair révoltée par l'effroi de l'anéantissement. Il grelottait, il bégayait dans l'attente de la catastrophe qui menaçait de faire sauter la maison aux quatre coins du ciel. « Mère Grand, Mère Grand, l'appareil, le robinet, c'est fini, fini, fini !» La vieille femme avait levé la tête sans comprendre encore. « Quoi donc ? Qu'avez-vous ? » Puis elle le vit si décomposé, reculant, fou de terreur, qu'elle regarda vers le fourneau et sentit l'épouvantable danger. « Eh bien, mais c'est très simple, il n'y a qu'à fermer le robinet, n'est-ce pas ?» Et sans hâte, de l'air le plus aisé du monde, elle posa son ouvrage sur la petite table, quitta sa chaise, alla tourner le robinet d'une main légère qui ne tremblait même pas. « Voilà qui est fait. Pourquoi donc, mon ami, ne l'avez-vous pas fait vous-même ?» Il l'avait suivi des yeux, béant, glacé, comme touché par la mort. Et quand le sang lui revint sous la peau, quand il se retrouva vivant devant l'appareil, désormais inoffensif, il eut un profond soupir, frissonnant encore et désespéré. « Pourquoi je ne l'ai pas fermé ? Mais parce que j'ai eu peur !» À ce moment, Marie et Pierre rentraient, ravis de leur promenade, causant, riant, rapportant avec eux l'allégresse du clair soleil. Et les trois frères, Thomas, François, Antoine, qui revenaient du jardin, les plaisantaient, voulaient leur faire avouer que Pierre s'était battu avec une vache et qu'il avait pédalé au travers d'un champ d'avoine. La vue du père, bouleversé, les inquiéta brusquement. « Mes enfants, je viens d'être lâche. Oh, c'est curieux, la lâcheté. Une sensation que je ne connaissais pas. » Et il conta la crainte de l'accident, sa terreur, et de quelle façon tranquille Mère Grand les avait tous sauvés d'une mort certaine. Elle eut un petit geste, comme pour dire que tourner un robinet n'était pas si héroïque. Mais des larmes étaient montées aux yeux des trois grands garçons, et ils vinrent l'embrasser l'un après l'autre, avec une ferveur dévote, mettant dans cette caresse la reconnaissance, le culte qu'ils avaient pour elle. Depuis leur petite enfance, elle leur avait tout donné, et elle leur donnait encore la vie. Marie, à son tour, s'était jetée dans ses bras, la baisait, pleine de gratitude et d'attendrissement. Et seule, Mère Grand ne pleurait pas, les calmait, voulait qu'on n'exagérât rien et qu'on fût toujours raisonnable. « Voyons, » dit Guillaume qui se remettait, « vous me permettrez de vous embrasser comme eux, car je vous dois bien ça. Et Pierre aussi va vous embrasser, parce que vous êtes maintenant aussi bonne pour lui que vous l'avez toujours été pour nous. » À table, lorsqu'on put enfin déjeuner, il revint sur cette peur, dont il restait surpris et honteux. Depuis quelque temps, il s'était ainsi découvert des soucis de prudence, lui qui, autrefois, ne songeait jamais à la mort. Deux fois déjà, il avait frémi devant des catastrophes possibles. D'où lui venait donc, sur le tard, ce goût de l'existence ? Pourquoi donc tenait-il maintenant à vivre ? Et il finit par dire gaiement, avec une pointe de tendresse émue, « Je crois bien, Marie, que c'est votre pensée qui me rend lâche. Si je suis moins brave, c'est que j'ai désormais quelque chose de précieux à risquer. » J'ai charge de bonheur. Tout à l'heure, quand j'ai cru que nous allions tous mourir, je vous ai vu. C'est l'effroi de vous perdre qui m'a glacée et paralysée. gentiment. Marie s'était elle-même mise à rire. Les allusions à leur prochain mariage étaient rares, mais elle les accueillait toujours d'un air d'affection heureuse. « 6 semaines encore, » dit-elle simplement. Mère Grand, qui les regardait, tourna les yeux vers Pierre. Il écoutait en souriant, lui aussi. « C'est vrai, » dit-elle, « dans 6 semaines, vous serez mariés. J'ai bien fait alors d'empêcher la maison de sauter. » À leur tour, les enfants, Thomas, François et Antoine, s'égayèrent, et le déjeuner s'acheva très joyeusement. L'après-midi, Pierre sentit un poids, peu à peu, qui lui écrasait le cœur. Le mot de Marie lui revenait. « 6 semaines encore. » « Oui, dans 6 semaines, elle serait mariée. » Et il lui semblait que jamais il n'avait su cela, que jamais il n'y avait songé. Puis, le soir, dans sa chambre, à Neuilly, ce fut une douleur intolérable. Le mot le torturait, le tuait. Pourquoi donc n'avait-il pas souffert d'abord, l'accueillant d'un sourire? Et pourquoi, lentement, la douleur était-elle venue si obstinée et si cruelle? Tout à coup, l'idée naquit. La certitude s'imposa, foudroyante. Il aimait Marie. Il l'aimait d'amour, à en mourir. Alors, dans cette vision soudaine, tout s'éclaira. Depuis la première rencontre, il se vit marchant invinciblement à cet amour, se croyant blessé d'abord, prenant pour de l'hostilité l'émoi où le jetait la jeune fille, conquise ensuite, cédant à une divine douceur. C'était à elle qu'il aboutissait après tant de tourments et de luttes, et c'était en elle qu'il avait fini par se calmer. Mais surtout, la promenade à bicyclette du matin, si délicieuse, lui apparaissait sous son véritable jour, comme une matinée de fiançailles au sein de la forêt heureuse, de la forêt complice. La nature l'avait repris, délivré de son mal, sain et fort, et l'avait donné à la femme qu'il adorait. Son frisson, son bonheur, sa communion parfaite avec les arbres, avec les bêtes, avec le ciel, tout ce qu'il ne s'expliquait pas, prenait maintenant un sens très clair qui l'exaltait. Marie seule était sa guérison, son espoir, sa certitude de renaître et d'être heureux enfin. Déjà, il avait oublié près d'elle les problèmes anxieux, tout ce qui le hantait et l'écrasait. Depuis 8 jours, la pensée de la mort, qui avait si longtemps été sa compagne de chaque heure, ne lui était pas même venue. Le débat de la croyance et du doute, la détresse du néant, la colère contre la souffrance injuste, elle avait tout écarté de ses mains fraîches, si bien portant elle-même, si joyeuse de vivre, qu'elle lui avait rendu le goût de la vie. Et c'était simplement cela. Elle refaisait de lui l'homme, le travailleur, l'amant et le père. Brusquement, il se rappela l'abbé Rose, la conversation douloureuse qu'il avait eue un matin avec ce saint homme. Ce cœur ingénu, ignorant des choses de l'amour, était pourtant le voyant qui seul avait compris. Il le lui disait bien qu'il était changé, qu'il y avait en lui un autre homme. Et lui, qui s'obstinait sottement à jurer qu'il était le même, lorsque Marie l'avait transformé déjà, remettant dans sa poitrine la nature entière et les campagnes ensoleillées et les vents qui fécondent et le vaste ciel qui mûrit les moissons. Et voilà donc pourquoi le catholicisme, la religion de la mort, l'avait exaspéré à ce point de lui faire crier que l'Évangile était périmé et que le monde attendait un autre code, une loi de bonheur terrestre, de justice humaine, d'amour vivant et de fécondité. Mais Guillaume, Il vit son frère se dresser devant lui, son frère qu'il adorait, qu'il avait introduit dans sa maison de labeur, de paix et de tendresse, pour le guérir. S'il connaissait Marie, c'était que Guillaume l'avait voulu. Et le mot lui revint. 6 semaines encore. Dans 6 semaines, son frère devait épouser la jeune fille. Ce fut comme si un couteau lui entrait dans le cœur. Pas une seconde il n'hésita. S'il devait en mourir, il en mourrait. Mais personne au monde ne connaîtrait son amour. Il se vaincrait, fuirait au loin s'il se sentait lâche. Son frère, qui le voulait ressusciter, qui était l'artisan de cette passion dont il brûlait, qui avait poussé la confiance jusqu'à lui tout donner de son cœur et des siens. Non, non. Plutôt que de lui causer un souci d'une heure, il se serait condamné lui-même à une éternelle torture. Et c'était bien sa torture qui recommençait. Car s'il perdait Marie, il retombait à la détresse de son néant. Déjà, sur sa couche d'insomnie, l'abomination recommençait, la négation de tout, l'inutilité de tout, le monde sans signification aucune, la vie niée et maudite. Son frisson de la mort le reprit. Mourir, mourir, et sans avoir vécu. Ah, quelle lutte affreuse! Jusqu'au jour, il se martyrisa, il gémit. Pourquoi avait-il ôté sa soutane? Un mot de Marie la lui avait fait quitter. Un mot de Marie lui donnait l'idée désespérée de la reprendre. On ne s'évadait pas de son cachot. Cette robe noire tenait à sa chair. Il croyait ne plus la porter, mais elle lui mangeait toujours les épaules. Et il serait sage de s'y ensevelir à jamais. Au moins, il porterait le deuil de sa virilité. Puis, une idée encore le bouleversa. Qu'avait-il à se débattre ainsi? Marie ne l'aimait point. Pendant leur promenade de la matinée, rien n'avait pu lui faire croire qu'elle l'aimait autrement qu'en sœur bonne et charmante. Elle aimait Guillaume, sans doute. Et il étouffa de longs sanglots dans son oreiller. Il fit le nouveau serment de se vaincre et de sourire à leur bonheur.